Bonjour à tous. Alors j'ai 45 minutes, c'est ça? Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors le texte que nous allons voir se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Il est dit: Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à leur donner son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu ?» Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Et comme ils continuaient à le questionner, Jésus se redressa et leur dit: « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa à nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Et Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit: « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, maître, » répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, » dit Jésus. « Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors c'est un passage très fort, avec beaucoup d'éléments très importants. Et on va voir quelques subtilités de ce passage que parfois on a tendance à mettre de côté. Donc pour remettre un peu dans le contexte, Jésus est en plein cœur de son ministère à ce moment-là. Il a accompli des miracles, il enseigne les foules et il se présente comme le Fils de Dieu. Et cela suscite plusieurs réactions. Certains l'adorent, tombent dans l'adoration, d'autres le rejettent et tout simplement, ils s'en vont. Et d'autres cherchent à le faire taire. Et on voit dans ce texte une forte opposition des docteurs de la loi et des pharisiens. Eux qui étaient censés pouvoir discerner que c'était vraiment le Fils de Dieu qui était censé pouvoir le transmettre aussi à tout le peuple. Ce sont eux qui donnent le plus d'opposition à Jésus. Certains parmi le peuple le reconnaissaient comme Messie, d'autres comme prophète et d'autres tout simplement comme un charlatan. En tout cas, on peut dire que Jésus dérange parmi le peuple. Et un des arguments que les pharisiens vont utiliser contre Jésus, c'est qu'ils vont dire nul, que c'était inconcevable qu'un prophète vienne de Galilée. Ils vont dire tous les prophètes venaient de Judée. Toi, tu viens de la Galilée, donc on ne reconnaît pas ton ministère. Ça a toujours été comme ça, tous les prophètes venaient de Judée. Et en fait, le choix de Dieu de choisir que Jésus vienne de la Galilée, je pense que ce n'était pas anodin. On voit déjà là un lien avec nos églises aujourd'hui où on a parfois du mal à accepter ce qui chamboule un peu nos habitudes. Et pourtant, bien souvent, Dieu chamboule nos habitudes. Il veut nous faire parfois sortir de nos zones de confort parce que nos zones de confort et nos habitudes peuvent facilement devenir des idoles que personne n'a le droit de toucher. Et ici, Dieu touche les habitudes de l'élite bien-pensante israélite. Il y a une jalousie parmi les pharisiens Ils voient bien que le ministère de Jésus attire les foules et qu'il produit du fruit et qu'il annonce le royaume de Dieu, mais ils refusent la vérité parce qu'ils pensent déjà la posséder. Jésus dérange la paix sociale pour offrir la paix céleste. Donc, ils veulent le faire mourir. Ils ont le projet de le faire mourir. Mais il y a un problème, c'est que, en fait, le peuple juif n'avait pas le droit de mettre à mort quelqu'un. Il faut rappeler que le peuple d'Israël est sous l'occupation romaine, et les Romains avaient l'habitude dans leur conquête de laisser les peuples exercer leur propre religion, mais ce qu'ils n'acceptent pas, c'est de laisser le peuple avec la possibilité de donner le droit de vie et de mort sur le territoire. Les Romains se font les juges de la vie et de la mort des peuples conquis. Donc les pharisiens, puisqu'ils ne peuvent pas faire mourir Jésus par la loi de Moïse, ils vont chercher un autre moyen pour le faire mourir. Les interprètes de la loi et les pharisiens ont un problème avec Jésus, ils les dérangent. Ils prétendent, eux, avoir la vérité et refusent la sienne. Et en fait, ça rejoint le premier chapitre de l'évangile de Jean qui dit que les ténèbres n'ont pas accepté la lumière. Il y a dans tout l'évangile de Jean des contrastes entre les ténèbres et la lumière. Quelques chapitres auparavant de ce passage, on voit qu'il y a une forte opposition aussi de la part des frères de Jésus, ses frères de sang, je veux dire, qui se moquent de lui. Donc ce passage est rempli de contrastes entre la loi et l'amour. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. On va voir trois aspects. On va prendre trois positions différentes. On va s'arrêter un peu sur les pharisiens. On va s'arrêter ensuite sur la femme qui a été accusée. Et on va voir un peu l'attitude de Jésus. Donc l'attitude des pharisiens. On a parlé un peu plus haut qu'il y avait un contraste entre la lumière et les ténèbres. Et les pharisiens sont complètement dans les ténèbres dans ce passage-là. On pourrait appeler, ils sont dans ce qu'on pourrait appeler l'aveuglement spirituel. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de voir leurs propres péchés et leurs propres incohérences. Et leur incohérence, c'est celle-ci. C'est qu'ils veulent juger cette femme qui a commis un adultère et la mettre à mort, ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Mais là où il y a un problème, c'est que souhaiter la mort de quelqu'un, c'est-à-dire commettre un meurtre dans son cœur, est tout aussi condamnable. Et dans leur cœur, ils veulent faire mourir Jésus parce qu'ils sont en colère contre lui, parce qu'il remet en cause leur enseignement. Et Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Donc en cherchant à faire mourir Jésus, les pharisiens ne se rendent pas compte qu'ils désobéissent eux aussi à la loi de Dieu et qu'ils sont passibles de jugement aussi. Le péché nous aveugle, le péché nous rend aveugles à ce qui est évident. Ils ne voient pas la poutre qui est dans leurs yeux, mais par contre ils voient très bien la paille qui est dans l'œil de cette femme. Et là où nous voyons leur hypocrisie et leur lâcheté réside dans le fait qu'ils s'en prennent uniquement à la femme. Pourquoi les pharisiens accusent-ils uniquement la femme? L'homme aurait dû être présent, c'est écrit dans la loi de Dieu, quand deux personnes commettent un adultère, c'est les deux qui sont passibles du jugement. Où était l'homme à ce moment-là? Il y a certains commentateurs qui disent que, en fait, peut-être que l'homme, il avait un certain statut social et qu'ils avaient peur des conséquences. Du coup, ils se sont pris uniquement à la femme, preuve de leur lâcheté. En fait, ce qui les intéressait, ce n'était pas le fait d'appliquer la loi de Dieu. C'était uniquement de tester Jésus et de lui tendre un piège. Et le test est simple. J'ai dit plutôt que sous l'occupation romaine, le peuple pouvait pratiquer leur religion librement, mais qu'ils n'avaient pas le droit de mettre à mort quelqu'un. Il n'y avait que les Romains qui pouvaient le faire. Et le test était de savoir si Jésus va répondre à la loi de Moïse ou à la loi romaine. Dans un autre évangile, les pharisiens vont encore essayer de le piéger en lui donnant un test sur la loyauté envers Dieu ou envers César. Et Jésus va répondre « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». En fait, selon la réponse de Jésus, les pharisiens pouvaient avoir une emprise sur Jésus. S'il répondait qu'il fallait lapider cette femme selon la loi de Moïse, il l'aurait dénoncée aux Romains et eux l'auraient mis à mort. S'il répondait qu'il faut la laisser en vie, il aurait renié la loi de Moïse et répondu à la loi des Romains, et il aurait perdu toute sa crédibilité. Le test est là. Or, ce que nous manquons parfois de dire dans ce passage, c'est que Jésus, il a donné une réponse. Il a fait un choix. Il n'a pas choisi la neutralité, il a choisi la loi de Moïse. Mais ce qu'il déclare nous montre que la loi de Moïse ne sauve pas. Elle ne mène pas au salut. Seule la miséricorde peut triompher du péché. Et il dit cette déclaration incroyable, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. On va prendre maintenant le point de vue de la femme. Regardons les faits tels qu'ils sont dits dans le texte. Il est dit qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère, ce qui signifie en plein acte sexuel, ce qui signifie que les pharisiens l'ont sortie du lit dans lequel elle était, peut-être à moitié nue. Elle a été exposée publiquement dans la cour du temple, le lieu saint. Et en fait, ce passage nous mène à nous mettre à la place de cette femme. Imaginez ce qu'a dû ressentir cette femme pendant ces quelques instants. Son sentiment de honte, son sentiment de culpabilité. Et étant dans la place principale du temple, son sentiment d'impureté. Et tous ces sentiments sont les effets du péché. Le péché nous expose, nous rend honteux. Et on peut faire référence au sentiment de honte lorsque Adam et Ève ont découvert leur nudité après avoir péché. Et en fait, cette honte est liée à un sentiment très fort de vulnérabilité à cause de l'exposition de leur corps. Et ici, c'est cette femme qui est exposée. Mais le péché aussi des hommes qui l'ont traîné jusqu'au temple est exposé aussi, avec leur méchanceté et leur mépris. Et toutes ces choses, ce sont les effets du péché. Les effets du péché autour de nous, nous nous sentons souillés, exposés et en insécurité. Et tout ce que cette femme a ressenti à ce moment-là, les pharisiens n'en ont rien à faire. Ils ne sont pas intéressés par sa personne, ni par sa culpabilité, ni par son péché, ni de sa punition, ni de sa réhabilitation. Les pharisiens ont utilisé cette femme. Ils ont fait d'elle l'objet d'un spectacle aux yeux du peuple juif. Tout cela dans l'unique but de tromper Jésus et de lui tendre un piège afin de le mettre à mort. Ils l'ont utilisé pour arriver à leur fin. C'est grave, très grave. Où est la compassion des pharisiens et des docteurs de la loi? Dieu nous appelle à être des êtres de compassion, de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Des êtres de compassion parce que Dieu a compassion de nous. Sans la compassion de Dieu, personne ne peut se tenir devant lui. Mais le problème avec les pharisiens, même pour nous aujourd'hui aussi, c'est qu'on a du mal à avoir de la compassion pour les grands pécheurs. Les meurtriers, les adultères, les terroristes, les voleurs. On peut avoir tendance à vouloir uniquement la vengeance et la justice. Et pourtant, il devrait nous être plus facile de nous identifier à ces personnes-là à cause de qui nous sommes. Il nous devrait être plus facile de nous identifier et de se mettre à la place des grands pécheurs plutôt que des personnes vertueuses, à cause de qui nous sommes. Mais il est plus facile d'avoir du mépris pour les personnes de mauvaise vie et de prendre de la distance avec eux, plutôt que d'en avoir compassion et d'entrer à leur contact. Il nous est tellement plus facile de dire parfois de manière inconsciente « Merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme eux ». Mais heureusement, nous avons Jésus qui nous ouvre la voie de la compassion à travers sa vie. Alors que le péché nous souille et nous expose, la grâce nous lave, nous purifie et nous couvre. Et l'attitude de Jésus, c'est celle du doux et de la fermeté. Et on le voit avec ses paroles qui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». La douceur, la fermeté, il ne dit pas que le péché, ce n'est pas grave, mais il envoie et il couvre son péché. Et on lit dans Ésaïe, au chapitre 43, c'est un passage qui parle du Messie, il est dit « Il ne criera point, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se décourage pas, il ne se découragera pas et il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. » Et cette femme était ce roseau cassé sur le point d'être brisée par son propre peuple, mais Jésus l'a relevée, il l'a protégée. Il dit « Je ne te condamne pas non plus ». Ça, c'est surprenant de dire ça, alors que la loi stipulait qu'elle devait mourir, c'était dans la loi de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, ne la condamne pas. Pourquoi ça ? Parce que Jésus va prendre sur lui la condamnation qu'elle méritait. Il va prendre sur lui la condamnation que nous méritions tous finalement. En mourant sur la croix, en prenant notre place afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Et Jésus a accompli ainsi la justice sur la terre. Il a pris sur lui la justice de Dieu en devenant péché pour nous sauver. Et il nous arrive aussi de pécher et d'être accusés, que ce soit à cause de nos incohérences, de nos manquements. Mais ce que Jésus nous montre à travers ses paroles, c'est que la seule issue, c'est la voie du pardon. La seule issue, c'est la voie du pardon. Autrement, on se jetterait tous des pierres les uns aux autres. Nous méritons tous la mort à cause de notre péché parce que nous nous blessons les uns les autres. On se blesse les uns les autres et on blesse Dieu aussi. Jésus est celui qui est sans péché et donc qualifié pour jeter la première pierre, mais il ne le fait pas. Il aurait pu, selon la loi de Moïse, et il aurait dû le faire même. C'était dans son plein droit, et il aurait été juste de le faire. Il faut rappeler que Jésus aime la loi de Moïse, car la loi nous montre le cœur de Dieu. Et Jésus ne dit pas que son péché n'est pas grave, mais il a eu miséricorde. Dans son droit souverain, il a exercé la grâce envers elle, parce que seule la grâce peut nous sauver de notre péché, alors que la loi ne pouvait pas. Quand ils eurent entendu ces mots, accusés par leur conscience, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Et ça, ce verset, en fait, très, très important parce que pour nous qui le lisons avec foi, en fait, ça doit être une source de réconfort. Parce que ce que Jésus fait ici, c'est qu'il chasse au loin les ténèbres, il chasse les accusateurs. Et dans notre vie chrétienne, on peut avoir des accusateurs. Et bien souvent, nous écoutons trop les pensées de nos cœurs qui parfois nous accusent et nous accablent par des sentiments d'indignité, d'illégitimité et de souillure, et bien d'autres encore, mais ce que ce texte nous révèle, c'est que le projet de Dieu, dans sa grâce, dans sa sagesse et sa puissance, c'est qu'il chasse au loin ceux qui nous accusent. Il chasse les ténèbres. Parce que tous ceux qui sont en Jésus sont protégés par sa grâce. Et tous ceux qui s'abritent sous ses ailes ont cette identité qui est bien ancrée dans la roche, c'est que nous sommes enfants de Dieu, enfants de lumière. Ce texte nous montre que nous avons un Dieu riche en compassion, riche en bienveillance, et qui nous protège de nos ennemis. Et Jésus le fait ici d'une manière très subtile. Il y a eu beaucoup de commentaires bibliques par rapport à ce passage, notamment, beaucoup se sont posé la question, qu'est-ce qu'il a écrit par terre ? Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors, j'ai une théorie que j'ai lue dans un commentaire, que je trouve très intéressante. Qu'est-ce que Jésus a écrit par terre ? Étant donné que Jésus savait lire dans les cœurs de chacun, je pense que Jésus il a écrit par terre les péchés de tous les accusateurs, de tous les pharisiens là, qui accusaient cette femme. Toi, un menteur, hypocrite, voleur. Et ainsi, accusés par leur conscience, ils s'en vont, reconnaissant leur propre hypocrisie. Seul l'amour pouvait sauver cette femme. Seul l'amour et la compassion de Dieu peut nous sauver et nous délivrer du péché. Et je vais terminer avec la lecture de 1 Corinthiens au chapitre 13, le passage sur l'amour, qui nous rappelle que l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste et la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Et nous sommes invités à persévérer dans ce même amour. Nous prions. Père éternel, nous te remercions pour la richesse de ta parole. Merci de nous rappeler ce matin que ton amour est immense et que tu nous couvres, Seigneur. Merci parce que ton projet, ce n'est pas de nous détruire, mais c'est de nous couvrir et qu'on puisse connaître cet amour et aussi le prodiguer aux autres, Seigneur. Tu vois que l'amour n'est parfois pas évident envers ceux avec qui ça peut être compliqué dans les relations personnelles, même dans l'amour fraternel, Seigneur. Et tu nous appelles à nous supporter les uns les autres. Tu nous appelles à porter les fardeaux des uns des autres. Donne-nous le courage, Seigneur, de dire ou de faire ce qu'il faut au quotidien. Donne-nous aussi la force d'aimer même nos ennemis, Seigneur. Par ta grâce et ton amour, nous te prions. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.